Qu'est-ce qui est culte ?
Le culte traditionnel.
Ce peut être une chanson, un film.
Est-ce que vous essayez de me dire que j'aurais un ticket avec ma mère ?
Malheureusement.
Un livre, une pièce de théâtre, un poème, une émission de télé.
Ça tourne.
Salut, c'est Casimir.
Une émission de radio, une série.
Messieurs, pouvons le reconstruire.
Au début, cet objet culturel dérange. Il divise, il étonne. Puis, comme un bon vin, il s'affine, se divinifie en mûrissant. Alors, il devient culte.
En puissance intellectuelle, on va voir ce que tu vaux.
Tous ensemble, célébrons le culte.
Mais avec plaisir.
Europe 1.
Les surprises, t'es peut-être pas au bout.
16h, 18h, culture culte.
Asseyez-vous tranquillement, nous avons le contrôle total de l'émission.
Carl Zéro.
Mes chers amis, mes chers compatriotes, chères auditrices et auditeurs, chers vacanciers, chers travailleurs, bienvenue dans Culture Culte. Vous l'avez compris, une fois de plus, nous allons célébrer le culte aujourd'hui en compagnie d'un grand témoin, culte lui-même, dont la carrière culte s'est nourrie de multiples rencontres et influences toutes plus cultes les unes que les autres. Littérature, théâtre, musique, cinéma, radio, télé, politique. Nous allons nous efforcer de toutes les passer en revue, ensemble. Merci Eric Emmanuel Schmitt d'être à nos côtés pour ces 2 heures de pur culte.
Bonjour.
Alors, Eric Emmanuel, bonjour Anissa, au fait.
Bonjour Carl,
vous
bonjour
êtes
à tous.
Là je vous suis pas en vacances.
Je ne vais pas vous lâcher de l'été, Carl, dites-vous bien ça.
C'est ta vie, mon cher Eric Emmanuel, que tu vas entendre défiler au travers de tes choix. Puisque tu as rempli le questionnaire culte de façon tout à fait professionnelle, c'est donc toi aujourd'hui le grand maître du culte. Alors avant toute chose, grand maître, quelle serait ta définition de ce qui est culte ?
Ce qui est culte, c'est ce qui a ouvert une porte dans notre vie et qui nous a fait emprunter un chemin qu'on n'aurait pas emprunté sans. C'est-à-dire que c'est une porte ouverte sur quelque chose qu'on ne connaît pas. Et c'est généralement une porte qu'on a envie de faire franchir aux autres. Tout ce qu'on a de culte, on a envie d'initier l'autre à ça. Parfois, on a des grandes déceptions. Et puis parfois, on se rend compte qu'on a une proximité énorme avec l'autre parce qu'il aime passer cette même porte.
Ah, je comprends ce que tu veux dire. Par exemple, je vais illustrer. Si par exemple, on a flashé sur un film...
Oui.
Et c'est donc une porte, et on l'ouvre, on le montre à quelques amis, et ceux qui vont aimer ce film, on va être plus proche d'eux.
Oui, ben on se rend compte qu'on partage autre chose qu'une situation, mais qu'on partage des sentiments, qu'on partage une vision du monde. Et à ce moment-là, oui, on se rapproche. Oui.
Ou une admiration pour une personne qui est culte, considérée comme culte.
Oui.
Pour préciser ta vision du culte, on va le tester avec ce culte pas culte. Je vais te donner des Eric célèbres et des Emmanuel célèbres, et tu me réponds culte. Ou pas culte. Fais attention de ne pas te faire d'ennemis au passage. Alors là, j'ai les Eric. On va commencer par Eric Cantona.
Oh, culte.
Culte, ok, très bien. Eric Dupont-Moretti.
J'ai vu son spectacle. Oui, ça peut être culte.
Ça peut devenir culte. Eric Morena.
Oh, mon oui,
bateau.
J'adore.
Oh,
culte. Trop
obligé. Ouais, bah ouais. Eric Nolo.
Non.
Eric Woerth.
Non, pas spécialement non plus.
Il n'a pas un charisme.
Il ne suffit pas de s'appeler Eric, hein, finalement.
On passe aux Emmanuel.
Ah, là, ça peut peut-être s'améliorer.
Emmanuel Carrère.
Oui, j'aime beaucoup.
Donc culte.
Culte.
Culte, il faut le dire. Emmanuel de Brandt. Tu vois qui c'est ?
Oui, je vois qui c'est.
Avec ses moustaches.
Oui, le dandy mondain. Il nous a tous précédés dans le culte.
Emmanuel Kant.
Alors ça, archiculte, archiculte pour moi.
Le dernier, Emmanuel Macron.
Oui.
Culte.
Déjà ?
Non, mais c'est un petit jeune qui laissera un nom.
Il laissera une empreinte. Lorsqu'on t'a demandé sur le fameux questionnaire culte, la chanson que tu te mets à fond pour te motiver. Celle que tu écoutes avant un moment très important pour te donner du cœur au ventre. Par exemple, cette émission de Culture Culte, tu l'as certainement écoutée en venant en voiture jusqu'au studio d'Europe 1. Tu as dit « Je ne veux pas travailler » de Pink Martini.
Ouais.
Donc c'est une plaisanterie, ça veut dire qu'avant d'aller travailler, tu ne veux pas aller travailler.
Non mais je veux faire tout avec plaisir comme si je ne travaillais pas. En fait, c'est ça que me dit cette chanson. Il faut tout prendre avec souplesse, avec joie,
légèreté.
Avec légèreté. Voilà, c'est une leçon de légèreté, cette chanson. Donc, elle me fait du bien.
Alors, est-ce que tu sais que cette chanson, c'est une chanson évidemment chantée par le groupe américain Pink Martini, qui s'appelle Sympathique, mais à l'origine, dans cette chanson, il y a un bref poème d'Apollinaire. Le savais-tu ?
Non.
Ah ah, ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre.
C'est les premiers mots de la chanson.
Mais oui.
Mais moi qui veux fumer pour faire des mirages, j'allume au feu du jour ma cigarette. Je ne veux pas travailler, je veux fumer. Et figure-toi que Francis Poulenc a mis en musique ce poème. C'est donc l'origine du tube de Pink Martini, un extrait.
Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par là.
C'est assez différent.
C'est assez différent. Alors, normalement, j'adore Francis Poulenc.
Mais là,
je trouve qu'il y a un aspect solennel. Il y a
C'est parce qu'il y a un baryton qui
est un petit peu emphatique.
Oui, qui en fait un peu trop.
Voilà. Je crois qu'on peut dire ça simplement, d'ailleurs, comme tu l'as dit.
Alors, attention, voilà la vraie version. Enfin, la plus célèbre, celle de Pink Martini.
Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler. Je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler.
Martini sur Europe 1, je ne veux pas travailler. C'est le premier choix culte d'Éric Emmanuel Schmitt aujourd'hui sur Europe 1, qui est votre invité jusqu'à 18h. Et on découvre que ces paroles sont les paroles d'un poème d'Apollinaire.
Mais
grâce
oui,
à vous, Carl
oui,
Zéro.
Oui, mais j'avoue que je l'ignorais. Je n'écoute pas Francis Poulenc absolument tous les jours. Mais ce qui me fascine, c'est que j'étais persuadé que ce qui est un poème avait été écrit par China, la chanteuse de Pink Martini, et que du coup, c'était un peu bizarre parce qu'elle est américaine.
Oui.
Et en fait, non, pas du tout.
Mais vous savez, surtout qu'il y a une chose très précieuse sur Terre et que j'adore, c'est les Américains qui adorent Paris et qui adorent la culture française. Et parfois, ils sont capables justement de nous faire découvrir des merveilles que
mais
nous,
oui,
on a oubliées.
Qu'on ignorait.
Europe 1. Jusqu'à 18h sur Europe 1, c'est l'été et on prend le temps de découvrir notre invité.
Prenons le temps.
Tous les samedis, tous les dimanches, pendant 2h, de 16h à 18h, c'est Culture Culte avec aujourd'hui l'écrivain Éric Emmanuel Schmitt qui a décidé de tout vous dire, de tout partager avec vous. Nous allons découvrir Éric Emmanuel dans un instant. Votre cinéma culte. Culture Culte, votre émission de l'été avec Carl Zéro et son invité aujourd'hui, Éric Emmanuel Schmitt, partage toutes ses madeleines de Proust et il est temps de parler cinéma aux consonances espagnoles aujourd'hui.
Moteur ! Film culte.
Coupable. Éric Emmanuel Schmitt, quand on te demande quel est ton film culte, sans hésiter un seul instant, tu dis « La loi du désir » de Pedro Almodovar. Pourquoi ?
Parce que c'est un film qui raconte comment nous sommes maladroits à aimer. Puisque dans ce film, chacun aime quelqu'un qu'il ne l'aime pas, qui aime quelqu'un d'autre, qui aime encore quelqu'un d'autre, et ce quelqu'un d'autre s'en fout.
Ah, c'est comme dans la vie, tu veux dire.
C'est comme dans la vie, et c'est comme dans Andromaque de Racine, quoi. C'est-à-dire que il n'y a pas d'amour réciproque. Tout le monde est à la fois mu par le désir pour aller vers l'autre, et en même temps tape sur des murs. Et je trouve que c'est raconté avec tellement d'énergie. C'est pas raconté avec désespoir. Almodovar accepte que la vie soit aussi compliquée, que le désir soit absurde, que le désir nous pousse les uns vers les autres sans que forcément ça marche. Et je trouve qu'il y a une leçon de vie, il y a une lucidité que j'adore. Et puis, c'est un des premiers films d'Almodovar. Il osait tout. Il y a des scènes incroyables. Ça commence quand même par une scène d'acteurs qui font du doublage, mais ils font un doublage de film porno.
Oui. Hein, et ça, c'est le côté provocateur d'Almodovar.
À l'époque, il l'était beaucoup. J'ai vu son dernier film, il l'est beaucoup moins aujourd'hui. Et pourtant, le dernier film...
Calmé avec l'âge.
Oui, mais le dernier film est très beau aussi. Ouais. Il est toujours capable de faire des choses très belles.
Il est polémique, il s'en explique.
Vous qui contrôlez jusqu'au plus petit détail de vos films, êtes-vous surpris par les polémiques qu'ils provoquent ou est-ce que vous vous y attendez ?
Je ne calcule rien. Mais je sais que la polémique est aussi une expression de la liberté de ceux qui vont voir mes films. Je ne sais pas au préalable si je vais provoquer une polémique quelconque, mais comme c'est arrivé dès mon premier film, j'y suis déjà, d'une certaine façon, habitué. Et ces réactions ne me surprennent pas. La seule chose que je demande aux gens qui ne sont pas contents de mon travail ou qui ont quelque chose à me reprocher, c'est qu'ils me donnent au moins une explication. Parce que ce que je n'aime pas, c'est que la critique se transforme en simple discrédit.
Toi qui as écrit énormément et beaucoup de pièces et donc qui est passé sous le joug des critiques, est-ce qu'il y a des fois où tu t'es dit « Voilà, je voudrais, comme Almodovar, je voudrais comprendre pourquoi on n'a pas aimé ceci ou cela ?»
Ben, généralement, je le comprends.
Ah, ça veut dire que c'est juste ?
Non, ça veut dire que c'est pas un spectateur pour moi ou que c'est pas un lecteur pour moi.
Ouais.
On ne peut pas plaire à tout le monde.
Bien sûr.
Il faut garder son chemin et sa confiance en soi, en sachant que certaines personnes, à un moment, s'écarteront de ce qu'on fait, et peut-être d'ailleurs ils viendront à un autre moment, parce que moi-même j'ai vécu ça dans mes rapports avec les gens que je lis. Il y a des auteurs qui m'ont accompagné à certaines époques, qui ne m'intéressent plus du tout aujourd'hui, et puis des auteurs que je ne lisais pas à une certaine époque et qui aujourd'hui me passionnent. Je veux dire, on est vivant. Tout est en mouvement, donc il faut accepter ça, il ne faut pas le prendre personnellement, et il faut être sûr de ce qu'on fait. Mais Almodovar, c'est un provocant, mais ce n'est pas un provocateur. C'est-à-dire que le provocateur, il est prisonnier des gens qu'il veut choquer. Au fond, il est obligé d'adopter leurs valeurs pour dire le contraire de leurs valeurs. Donc, en fait, il est aliéné, le provocateur.
Alors, on va écouter un extrait de la chanson titre du film. Tu vas la reconnaître.
Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or. Et de lumière, je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
Dis-moi. Il me semble que c'est Maísa Matarazzo qui chante, une célèbre chanteuse brésilienne qui est décédée depuis. Il a le chic, Almodovar, pour sortir des chanteuses comme ça, un peu tragiques.
Oui.
Pourquoi
ce sens du drame, qui transforme la tristesse en spectacle. Donc du coup, ça cesse d'être de la tristesse puisque ça devient du spectacle.
C'est de l'émotion, quoi.
Exactement.
En voilà une troisième qui arrive. Car la chanson que tu as choisie pour parler de l'amour... L'amour adolescent, la découverte de l'amour pour toi, c'est un chanteur hollandais. C'est le chanteur Dave. Est-ce par hasard? Et là encore,
il a un léger accent.
L'accent trouble, Éric Emmanuel. Dave, est-ce par hasard?
Est-ce par hasard si j'ai suivi une étoile qui m'a conduit cette nuit jusqu'ici où tu te trouves aussi? Par hasard, si j'ai croisé.
ce soir va se jouer ma vie. Take a chance, why be afraid of it? Let's close our eyes and make our own paradise. Little we know, but still we can try to make a go of it. We might have been meant for each other.
Death par hasard, le deuxième titre que vous avez choisi avec Emmanuel Schmitt, Europe 1. Culture Culte, c'est votre émission de l'été, tous les samedis, tous les dimanches, 16h, 18h, avec Carl Zéro et son invité qui se dévoile, qui tourne les pages du livre de sa vie pour partager avec vous tous ses secrets. Aujourd'hui, c'est Éric Emmanuel Schmitt. Et dans un instant, Éric Emmanuel, nous allons découvrir quel est votre dialogue de film culte. A tout de suite sur Europe 1. On prend le temps tout cet été de découvrir des personnalités sur Europe 1. C'est votre émission, c'est Culture Culte avec Carl Zéro. Et aujourd'hui, Éric Emmanuel Schmitt. Dans quelques jours, Éric Emmanuel, je ne veux pas vous mettre la pression, mais vous allez remonter sur scène le 29 août au Théâtre Rive Gauche pour 30 représentations exceptionnelles de Madame Pilinska et Le Secret de Chopin. On aura l'occasion, bien sûr, d'en reparler avant 18h. Avant, ce qu'on a envie de découvrir de vous, c'est vos dialogues de films cultes.
Mais qu'est-ce que c'est
que cette
matière ?
C'est
clonc. N'approchez pas !
Dialogue de films cultes.
Tout au long de l'été, on a découvert des dialogues de films cultes et bien souvent, c'était des dialogues d'Audiard. Mais toi, Éric Emmanuel, tu as choisi un autre grand auteur qui souvent est un peu oublié.
Oui.
Gommé, peut-être par Audiard, qui a été très fort. On a aussi parlé de Claude Sautet. Mais
c'était le génie d'avant Audiard.
C'est le génie d'avant, c'est Henri Janson. Et tu as choisi un extrait de Pépé le Moko, de Julien Duvivier, avec le jeune Jean Gabin,
ouais,
qui est à ce moment-là très très beau, l'icône un peu,
ouais,
le jeune premier romantique de l'époque, quoi, mais en même temps musclé, enfin c'est...
Oui, et en même temps avec l'œil maquillé, hein, y a un mélange de virilité et puis de féminité qu'il avait lorsqu'il était jeune, qui était très troublant, un peu comme Depardieu jeune.
Oui, ouais, qui a un peu disparu, effectivement, dans la deuxième partie. Dans Le Chat, il n'est pas très sexy, il faut bien se le dire, Éric Emmanuel. Mais en même temps, bon, maintenant, il est décédé, donc tout est pardonné. Alors, tu avais réclamé un extrait très précis. Inès le matin, Inès le midi, Inès le soir, c'est pas une femme, c'est un régime. Eh ben, on l'a pas retrouvé. Mais on en a d'autres, attention. Voici Jean Gabin qui parle.
Ici ?
Oui.
Oh, tu me plais, tu sais. T'es belle. Puis avec toi, c'est comme si j'étais à Paris. Avec toi, je m'évade, tu saisis. Tu me changes de paysage. Car tout à l'heure, je faisais semblant de dormir, on ne parlait pas, hein. Je me laissais glisser. Mais sais-tu ce que j'entendais ? Le métro. Tu te rends compte, le métro ? T'as des bijoux, c'en est de la provocation, t'es tout en sweat, t'es pleine d'or, et tu me fais penser au métro. À des cornets de frites et à des cafés crème à la terrasse.
En fait, se dégage une poésie qu'il n'y a peut-être pas chez Audiard.
Oui, vous avez raison, ouais. En plus, il faut voir la situation, il est enfermé dans la Casbah,
ouais,
il ne peut pas sortir. Et tout d'un coup, il voit Mireille Balin,
ouais,
qui est une Parisienne, avec un physique de Paris, avec des bijoux de Paris, avec une robe légère de Paris.
Une grande beauté de l'époque.
Avec qui d'ailleurs, Gabin lui-même avait eu une liaison. Et là, voilà, il voit cette Parisienne et il a la nostalgie de Paris. Et il lui parle d'elle en parlant de Paris. Et il lui dit, tu sens le métro. Ça, c'est horrible cette phrase, tu sens le métro. Mais là, ça devient de la poésie pure.
Est-ce que quand toi, tu écris tes pièces,
tu te dis, il faut que je trouve des trucs comme ça, oui, aussi forts que Janson à l'époque. Est-ce que c'est eux tes modèles ?
Pour la poésie, oui.
Oui.
Parce que c'est une espèce de poésie maladroite, c'est une espèce de poésie, comment dirais-je, qui... c'est une poésie pas poétique. Et la poésie, c'est jamais, la vraie poésie, elle n'est jamais poétique. C'est tout d'un coup des phrases qui sortent comme ça.
La poésie, elle te vient naturellement ou ça se travaille ?
Non, c'est le personnage souvent qui est poétique et puis j'ai qu'à écouter ce que me dit le personnage et il trouve ce qu'il a à dire.
Et pour écrire, tu as besoin de parler avant avec ceux qui vont jouer tes pièces ?
Non.
Tu n'écris pas en pensant, tiens, ça sera un tel ?
Je me nourris des acteurs et de ce qu'ils sont capables de faire lorsque j'écris. Je me dis, tiens, là, il y a une rupture à faire comme ferait, je ne sais pas, Dujardin, ou etc. etc. Ouais. C'est tous les acteurs qui m'aident à écrire, mais je ne pense pas à un précisément.
Marcel Pagnol, autre grand auteur, décrit Henri Janson.
Je dirais qu'il est indéfinissable. Je veux dire, on ne peut pas l'enfermer dans une formule étroite, n'est-ce pas ? Ce n'est pas un historien, mais c'est un mémorialiste absolument remarquable, comme Champfort, n'est-ce pas ?
Il était très secret.
Oui, mais c'était peut-être la racine de son talent. Je crois qu'il y a des talents qui se nourrissent du secret. Il y a des talents qui se nourrissent de ce qui n'est pas dit.
Ben, il y a toi, par exemple, puisque quand on te dit « Quelle est ta pépite musicale culte ?», tu nous sors quand même Redaker dans « Ses yeux perdus voient le ciel ».«
Ses yeux perdus voient le ciel et je sens qu'il voudrait m'y conduire. » Aurait-il sans cela ce sourire surnaturel? Ses yeux perdus voient le ciel, ses yeux morts voient danser les étoiles, et le monde infini se dévoile à son appel.
Redaker, c'était qui ? C'était un chanteur des années 40 ?
Avant, on a évoqué en fait Tino Rossi. Ouais. C'était, si vous, quand Tino Rossi est arrivé sur le marché, il y avait en place déjà largement Redaker. Et
la mégastar.
Toutes les femmes étaient amoureuses de Redaker. Et Redaker, évidemment, n'était amoureuse d'aucune femme. Et était une espèce de génie avec un ténorino, comme notre ami Tino. Voilà.
Très bien, merci.
Alors, puisqu'on est dans les cloches et les églises, on va y rester avec un tube de la playlist culte d'Europe 1. Il s'agit des trois cloches popularisées, vous le savez, par les compagnons de la chanson.
Et puis, il y a Edith Piaf aussi qui l'a chanté.
Et bah, avec les compagnons, et là, c'est repris par la délicieuse Tina Arena.
Jean-François Nicot, il se nomme. Les cheveux flous, tendre et rosé. À l'église, beau petit homme. Demain, tu seras baptisé. Une cloche sonne, sonne. jours de nuit, le temps a fui. Voici dans la nuit étoilée, encore son dos, François est mort. Garde tout touché et comme l'herbe, elle est comme la fleur des champs. Et puis fuis-moi pour qu'elle gerbe, hélas tout va. C'était ses chants. Une cloche sonne, sonne. Elle chante dans le vent. Obsédante monotone. Elle redit au vivant. Ne tremblez pas que fidèle.
Trois cloches, mais cette fois-ci la version Tina Arena sur Europe 1 dans la playlist culte des titres
d'Europe 1. Un peu trop moderne à notre goût.
C'est trop récent. Pour Carl Zero, Éric Emmanuel Schmitt.
Europe 1.
Éric Emmanuel Schmitt, dramaturge, écrivain et l'invité de Carl Zero, Culture Culte, c'est son émission. Aujourd'hui, pendant deux heures, vous vous dévoilez. Alors, on a parlé beaucoup de chansons, on va continuer, Éric Emmanuel, avec la chanson culte qui vous a porté chance et qu'on va écouter dans un instant. Culture Culte, votre émission de l'été aujourd'hui, c'est le dramaturge Éric Emmanuel Schmitt. Il est de retour sur scène, au théâtre, à la fin du mois d'août. Et puis, sortie d'un livre très attendu le 4 septembre, on aura l'occasion d'en reparler. Éric Emmanuel, vous êtes avec nous pendant deux heures et on en profite. Et on découvre votre chanson culte qui vous a porté chance.
Asseyez-vous tranquillement, nous avons le contrôle total de l'émission.
Carl Zero.
Ça, c'est sûr qu'on a le contrôle total de l'émission, mais pas vraiment en fait, puisqu'Éric Emmanuel Schmitt a décidé de tout ce qu'on allait diffuser.
C'est lui qui pilote.
Ouais. Et il pilote très très bien. Enfin, pour l'instant, moi j'ai des goûts communs avec lui. Alors, la chanson culte qui lui a porté chance, c'est We Are the Champion de Queen. Alors là, je me demande en quoi ça a pu te porter chance.
Eh bien, quand je tournais mon premier film, ouais. Odette Tout le Monde, ouais. avec Catherine Froux ouais. et Albert Dupontel, j'étais quand même assez effrayé de faire un film. Je m'attendais tous les jours à ce qu'arrive un huissier sur le tournage pour dire, bon, vous êtes très sympathique, mais on va mettre quelqu'un de professionnel à votre place. Ce qui a beaucoup fait rire Catherine et Albert à la fin du tournage, quand je leur ai avoué ce qui s'était passé, parce qu'il m'a dit, on n'a jamais eu ce sentiment. Et en fait, tous les matins, dans la voiture, pour aller au tournage, et j'y allais à 7h du matin, j'arrivais le premier au studio, je me mettais cette chanson pour me donner du courage. Et le film a très bien marché.
C'est un excellent film, Odette Tout le Monde. Ouais. C'est vraiment un très bon film.
Un extrait d'Odette Tout le Monde.
Cher Monsieur Balzan, je n'écris jamais... Car si j'ai de l'orthographe, je n'ai pas de poésie. Franchement, ma vie avant de vous connaître, je la trouvais souvent moche. Puis un jour, je vous ai lu. Dans vos livres, vous montrez que dans toute vie, même la plus misérable, il y a de quoi se réjouir, de quoi rire, de quoi aimer. Il y a plein de gens qui veulent vous remercier du bien que vous avez fait sur Terre, Monsieur Balzan. Et dans ces millions de personnes, il y aura Odette Tout le Monde.
Ah, ça donne envie de le revoir cet extrait. Mais pendant l'été, là, on regarde Odette Tout le Monde en famille, c'est chouette.
Il doit être en VOD, non ?
Mais absolument, on peut le trouver partout.
Oh,
bien
alors
sûr,
tu vas avoir
bien
des petits droits à scène. Attention, on revient à Freddie Mercury qui nous explique son choix de chanson.
Dans nos chansons, il y a beaucoup de sexe, mais personnellement, je ne vais pas chercher l'inspiration en haut des montagnes. C'est un boulot pour moi. C'est comme un job de 9 à 5.
Qu'est-ce que tu penses de Freddie Mercury ?
Ah bon, je suis fasciné par Freddie Mercury. Par son énergie, par le chemin qu'il a fait, parce que vraiment, il n'était pas prédisposé à devenir comme ça.
Oui, Zanzibar.
Oui, mais c'est un grand auteur de chansons. Je veux dire, ses musiques sont absolument magnifiques.
Vous avez vu Bohemian Rhapsody
oui,
au
bien
cinéma
sûr.
Vous avez aimé ?
Ah oui, beaucoup. Même si c'est un peu édulcoré par rapport à ce qu'est le vrai Freddie Mercury.
C'est très édulcoré, c'est oui. vraiment une version, c'est les bisounours. Hein.
Oui, mais enfin c'est déjà ça. Ouais. Je veux dire, ça rend hommage à...
Oui, mais est-ce qu'il ne reste pas à faire le film sur Freddie Mercury ?
Bah, de toute façon, Freddie Mercury est parti, donc tous les moyens sont bons de le faire revenir, et moi j'accueillerais bien tous les films qui se feront sur lui, parce que j'adore. Mais c'était un vrai génie de la chanson. I paid my dues.
time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my shells and kicked in my bed, but I've come through.
And I need to go home.
The Champions sur Europe 1, c'est la chanson culte qui a porté chance à Eric Emmanuel Schmitt. Et maintenant, quand vous regarderez le film Odette Tout le Monde, vous saurez ce qu'écoutait le réalisateur le matin à 7h du matin et vous penserez à Queen.
Europe 1.
C'est aussi ça, culture culte, c'est mieux connaître les personnalités. Le dramaturge Eric Emmanuel Schmitt aujourd'hui vous dit tout sur sa vie, partage ses souvenirs. C'est Madeleine de Proust avec vous jusqu'à 18h. Et dans un instant, on va découvrir, Eric Emmanuel, ce que vous écoutez à la radio et ce qui vous a marqué à la radio. A tout de suite. Culture Culte, votre émission de l'été avec Carl Zéro et son invité aujourd'hui, Eric Emmanuel Schmitt. Eric Emmanuel, il est temps maintenant d'allumer la radio et que vous nous livriez vos souvenirs.
Vous êtes bien sur Europe 1, vous êtes bien.
Moment de radio culte.
C'était il y a quelques années. Anne Roumanoff te recevait comme invitée et voilà qu'elle fait un sketch sur les prénoms composés à partir du tien pour montrer à quel point ça peut rendre tout chic d'ajouter Emmanuel au prénom habituel. On l'écoute.
Moi, par exemple, si je m'appelais Anne-Emmanuel Roumanoff, ça ferait tout de suite beaucoup plus classe.
Ah.
Hein, vous êtes d'accord? Ça ferait plus aristo.
Ça fait un peu bonne sœur.
Ah,
sœur
Anne-Emmanuel. Ça ferait Télérama. Tu vois, vous voyez, j'imagine déjà la scène. Anne-Emmanuel, le vicomte est là pour le thé. Bref, Eric, Emmanuel Schmitt, tout ça pour vous dire que vous avez de la chance avec votre prénom. Emmanuel, ça fait prince italien. Eric, ça fait aristocrate allemand. Eric Emmanuel, ça fait suisse allemand. Alors que Schmitt, ça fait cuisine.
Alors, pour quelle raison Est-ce que ce moment-là te revient en mémoire et est culte pour toi ?
Non, parce qu'elle m'a réconcilié avec mon double prénom, parce que moi j'ai subi ça comme une croix, ce double prénom, parce qu'on se moquait de moi à l'école, parce que je m'appelais Éric Emmanuel.
C'était trop long à dire.
C'était trop long, bien sûr. Puis quand j'ai commencé ma carrière aussi au théâtre, les directeurs de théâtre me disaient « ça tient trop de place sur une affiche ». Et là, j'ai commencé à me dire « je le garde, ce double prénom ». Non, non, bah, et donc et tout d'un coup... S'amusant avec ça, je me suis dit, bon, allez, on va faire la paix avec ce double prénom.
Et vos amis, ils vous donnent des surnoms, ils raccourcissent votre double prénom. Comment vous appelez
oui,
vos amis ?
Oui, ils raccourcissent mon double prénom, ils m'appellent Eric.
Tout court.
Voilà. Après, on ne peut pas tellement simplifier. Hein.
Ouais, non,
oui, le raccourcir, Eric M, c'est assez bizarre. Eric Manu, on pourrait faire.
Eric Manu.
Eric Manu, ah, ça te plairait ?
Non.
Oui, c'est moyen. Hein. Mm. Puis ça fait moins auteur, Eric Manu Schmidt.
Ou pas auteur des mêmes choses.
Ah, remarque, ça c'est possible de faire une deuxième carrière.
Bah, une deuxième
carrière. Émile Ajar, tu peux écrire la vérité sous ce nom-là. Bon,
s'il écrit Eric Manu Schmidt, je pense qu'on fera vite le raccourci, qu'on verra vite de qui il s'agit.
Ah non, il pourra en même temps faire un procès en disant mais qui est ce Eric oui. Manu Schmidt. Alors ce qui est très drôle, c'est que quand on te demande quelle est la chanson qui n'a pas rencontré le succès mais qui le méritait 100 fois, tu nous dis « Attendez que ma joie revienne » de Barbara.
Souvent, les gens ne connaissent pas cette chanson de Barbara.
Bah, pourtant, elle a été reprise par Patrick Bruel.
Si tu veux que ma joie revienne, qu'au matin je puisse sourire vers ce pays où meurt la peine, je t'en prie, laisse-moi partir. Il faut de mes amours anciennes que périsse le souvenir pour que libéré de ma chaîne vers toi je puisse revenir. Alors je t'en fais la promesse.
Voilà, c'était un cadeau que je voulais te faire. Je sens qu'il t'a touché droit au cœur. Et on va écouter la véritable version, celle de Barbara. Attendez que ma joie revienne.
Attendez que ma joie revienne et que se meure le souvenir de cet amour de tant de peine qui n'en finit pas de mourir. Avant de me dire je t'aime, avant que je puisse vous le dire, attendez que ma joie revienne, qu'au matin je puisse sourire. Laissez-moi, le chagrin m'emporte et je vogue sur mon délire. Laissez-moi, ouvrez cette porte, laissez-moi, je vais revenir. J'attendrai que ma joie revienne et que soit mort le souvenir de cet amour de tant de peine pour lequel j'ai voulu mourir. J'attendrai que ma joie revienne, qu'au matin je puisse sourire, que le vent ait séché ma peine et la nuit calmé mon délire. Il est, paraît-il, un rivage où l'on guérit du mal d'aimer. Les amours mortes y font naufrage, épave noire du passé. Si tu veux que ma joie revienne, qu'au matin je puisse sourire vers ce pays où meurt la peine, je t'en prie, laisse-moi partir. Il faut de mes amours anciennes que périsse le souvenir pour que libéré de ma chaîne vers toi je puisse revenir. Alors je t'en fais la promesse, ensemble nous irons cueillir au jardin fou de la tendresse la fleur d'amour qui va s'ouvrir. Mais c'est trop tôt pour dire je t'aime, trop tôt pour te l'entendre dire. La voix que j'entends, c'est la sienne, ils sont vivants mes souvenirs. Pardonne-moi, c'est lui que j'aime, le passé ne veut pas.
La voix de Barbara sur Europe 1 pour votre été. Attendez que ma joie revienne. C'est encore un choix musical d'Éric Emmanuel Schmidt car nous sommes dans son culture culte aujourd'hui jusqu'à 18h. Et pour vous, Éric Emmanuel, c'est la chanson qui méritait d'être d'autant plus connue. Et bien, c'est une mission réussie aujourd'hui parce que tous les auditeurs d'Europe 1 connaissent maintenant Attendez que ma joie revienne.
Et le standard a explosé en disant mais qui est cette nouvelle chanteuse ?
Et puis on est sur un pic d'audience là, absolument. Europe 1. Jusqu'à 18h, Éric Emmanuel Schmidt, vous êtes notre invité. Culture Culte, c'est votre émission. Vous nous dites tout. Tout de vos souvenirs, tout de vos Madeleines de Proust. Et dans un instant, nous allons parler politique. Vous allez nous dévoiler quel est pour vous le moment politique culte.
C'est l'été, vous êtes bien sur Europe 1.
Culture Culte avec Carl Zéro, c'est tout l'été, samedi, dimanche, 16h, 18h, votre émission de l'été avec aujourd'hui un très grand témoin culte, le maître des clés du temple culte aujourd'hui, Éric Emmanuel Schmitt, et il est temps de parler politique.
What do you want me to go back to my plane?
Je vous demande de vous arrêter.
Séquence politique culte.
Et non, ça n'est pas Jacques Chirac ni Édouard Balladur qu'on vient d'entendre que tu as choisi, Éric Emmanuel. Tu te souviens de ce que tu as dit ?
Mais j'ai peur de ne pas m'en souvenir.
Eh bien, l'histoire est la suivante. Nicolas Sarkozy, qui est alors président, vient de passer une heure en compagnie de Poutine. Et il arrive à la conférence de presse. On l'écoute.
Mesdames et messieurs, je vous demande de bien vouloir excuser mon retard, qui est dû... à la longueur du dialogue que je viens d'avoir avec M. Poutine. Qu'est-ce que vous préférez, que je réponde aux questions ? Alors, y a-t-il des questions ? Allez-y. Oui, oui,
Et alors, chacun se souvient de l'image. Il transpire.
Ah oui, il a chaud.
Il est haletant. Il est très étrange.
Il a quelques verres de vodka dans le nez.
Mais on a cette impression-là, en tout cas.
On a cette impression. On a l'impression qu'il a été obligé. Et moi qui vais souvent...
Et surtout qu'il ne boit pas, je crois.
Mais non, il ne boit pas. Ouais. Mais quand on va en Russie, et moi j'y vais très souvent...
On porte des toasts.
On est obligé.
Bah évidemment.
Autrement, sinon, c'est la politesse totale. Donc je pense que le pauvre a dû être obligé pour soutenir sa conversation avec Poutine.
Et comme il ne boit pas...
Voilà. Et Poutine, en plus, il sait très bien ce qu'il fait à chaque instant.
Bah évidemment. L'explication d'un journaliste, Nicolas Hénin, sur le plateau de BFM TV.
Avait l'air, oui, sous, et on avait à l'époque encore la référence en tête du naufrage éthylique de Boris Yeltsin, hein, qui avait l'air sans cesse bourré. Et les commentateurs s'étaient dit, sacré Vladimir, il a réussi à faire boire notre Nicolas National. Mais en fait, pas du tout. J'ai eu le récit de l'un de ses proches qui m'a raconté que s'il semble à ce point sonné, ce n'est pas du tout à cause de l'alcool, puisque aucun des deux hommes ne boivent, mais à cause de la violence de leur première entrevue qui avait eu lieu quelques minutes avant. Une entrevue d'une grande violence en termes de physique.
Ah oui, donc ça change tout, là.
Et oui, en réalité, il lui a parlé des sujets qui fâchent. À l'époque, il lui a parlé des morts en Tchétchénie et de la journaliste, tu t'en souviens, Anna Politkovskaya,
qui
avait été assassinée en 2006 à Moscou. Et après un long silence, Poutine lui a dit « Bon, tu as fini là, c'est terminé ». Et il est sorti de là comme ça. Et c'est pour ça qu'il avait l'air...
Donc il est KO, quoi, comme un boxeur. Un
peu.
Il est sonné.
Ouais, exactement.
Eh ben, je suis très content qu'on ait rétabli...
la vérité.
Oui, puis
concernant ce pauvre Nicolas.
Et sa dignité, finalement.
Mais oui, bien sûr, bien sûr. Alors, parlant politique, quand on te demande quelle est la chanson culte, engagée ou politique, tu dis « C'est la langue de chez nous » d'Yves Dutheil.
C'est une langue belle, avec des mots superbes, qui porte son histoire à travers ses accents, où l'on sent la musique et le parfum des herbes, le fromage de chèvre et le pain de froment, et du Mont-Saint-Michel jusqu'à la contrescarpe, en écoutant parler les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe. Qu'il en a gardé toutes les harmonies. Dans cette langue belle aux couleurs de Provence, où la saveur des choses est déjà dans les mots, c'est d'abord en parlant que la fête commence. Et l'on boit des paroles aussi bien que de l'eau. Les voix ressemblent au cours des fleuves et des rivières. Elles répondent aux méandres, au vent dans les roseaux, parfois même au torrent qui charrie du tonnerre, en polissant les pierres sur le bord des ruisseaux. C'est une langue belle à l'autre bout du monde, une bulle de France au nord d'un continent, sertie dans un étau, mais pourtant si fécond. Enfermée dans les glaces au sommet d'un volcan, elle a jeté des ponts par-dessus l'Atlantique. Elle a quitté son nid pour un autre terroir. Et comme une hirondelle au printemps des musiques, elle revient nous chanter ses peines et ses espoirs. nous dire que là-bas, dans ce pays de neige, elle a fait face au vent qui souffle de partout pour imposer ses mots jusque dans les collèges et qu'on y parle encore la langue de chez nous. C'est une langue belle qui sait la défendre. Elle offre les trésors de richesses infinies, les mots qui nous manquaient pour pouvoir nous comprendre et la force qu'il faut pour vivre en harmonie. Et de l'île d'Orléans jusqu'à la contrescarpe, en écoutant chanter les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe et qu'il a composé toute une symphonie. Et de l'île d'Orléans jusqu'à la contrescarpe, en écoutant chanter les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe et qu'il a composé toute une symphonie.
La langue de chez nous, Yves Dutheil sur Europe 1. C'est un nouveau choix musical d'Éric Emmanuel Schmitt.
Un choix politique.
C'est sa chanson culte engagée aujourd'hui.
Mais ouais. Je me demande pourquoi cette chanson-là.
Parce que moi, je suis un militant de la langue française, oui, et de cette notion de francophonie. Je trouve que c'est extraordinaire, sur plusieurs parties du globe, de pouvoir partager cette langue. Oui. Moi, je suis un amoureux du Québec, j'y vais très souvent. Je suis moi-même franco-belge, donc de deux pays francophones. Je suis bouleversé, comme on l'a vu au début de l'émission, quand des étrangers parlent le français avec un petit accent, qui est comme un écrin qui met en valeur le bijou. Et la langue, elle véhicule une musique, bien sûr, elle est une musique, mais elle véhicule aussi des valeurs. Et donc, pour moi, il est très très important de développer ces valeurs. Je suis ravi d'avoir une carrière à l'étranger parce que je pense aussi être le véhicule, non seulement d'une langue, mais de ces valeurs-là.
Europe 1. Jusqu'à 18h sur Europe 1, nous sommes avec Éric Emmanuel Schmitt et ça fait du bien. On prend le temps sur Europe 1 de découvrir l'écrivain. Alors, on vient de passer une heure ensemble, Éric Emmanuel. Ça va continuer après les infos, après 17h. Et on va parler de votre personnage culte. Alors, personnage de fiction, personnage réel, vous allez tout nous dire dans un instant. Vous écoutez Europe 1. Belle fin d'après-midi, vous écoutez Europe 1. Il est 17h. Culture culte, la suite, c'est maintenant. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre sur Europe 1. C'est le début de la deuxième heure de Culture Culte avec Carl Zéro et son invité, comme chaque samedi, chaque dimanche de l'été, deux heures en tête à tête avec une personnalité. Aujourd'hui, l'écrivain et dramaturge Éric Emmanuel Schmitt. Et on va commencer cette deuxième heure avec un personnage culte à qui vous voulez rendre hommage.
Bonjour, c'est moi Casimir.
Personnage culte.
Et il y a un rapport avec la petite discussion que nous faisions à l'instant sur Yves Dutheil et sur la défense de la langue française, puisque le personnage culte pour toi, c'est Michel Serres, et il nous parle de la langue française.
La langue française est une langue très très précise qui a beaucoup de mots pour dire pudeur. Il y a la vergogne, il y a la réserve, il y a un certain nombre de mots, et beaucoup de langues n'ont pas ces mots-là.
La timidité aussi, on en fait partie ou pas?
Non, la timidité, c'est le versant négatif. Je parle, moi, d'une qualité positive.
Oui.
Et la langue française est très riche dans ces mots-là, et c'est une langue qui demande, en effet, la pudeur, la réserve et une sorte de sous-évaluation, ce qu'on appelle, dans la forme la plus évoluée, la litote.
Et ça, je trouve, ça te va assez bien, cette idée de pudeur.
Oui, c'est intraduisible, hein, la pudeur, dans beaucoup de langues. Moi qui suis traduit dans une cinquantaine de langues, on n'arrive jamais à traduire ce mot-là. Je parle de Michel Serres ou de la pudeur?
Des deux, mon capitaine.
Mais la pudeur, c'est non seulement le respect de soi, mais c'est le respect de l'autre. Je crois que quand on est pudique, on laisse la place à l'autre pour qu'il ait ses propres émotions. Je trouve que c'est une attitude plus riche, la pudeur, que l'exhibition, et sans doute plus respectueuse de l'autre.
Et pour Michel Serres, alors pourquoi est-ce que c'est ton personnage culte?
Écoutez, regardez cet homme, il a été beau jusqu'au bout, séduisant, charmant, jusqu'au bout, intelligent jusqu'au bout. Il s'est cultivé jusqu'à sa dernière seconde. Il nous a parlé du monde. Il se tenait au courant de tout ce qui se passait en science, de tout ce qui se passait dans les nouvelles technologies. J'aime son œuvre de philosophe, mais j'aime aussi ses interventions pour nous expliquer que non, ce n'était pas mieux avant. Ce combat contre les idées reçues, finalement, c'est l'homme le plus moderne et le plus jeune que j'ai jamais rencontré, et il l'a été jusqu'au bout. Il n'y a qu'une chose qui me gênait avec lui, c'est qu'il m'obligeait à le tutoyer.
Comme moi.
Oui, mais c'était parce qu'on était d'anciens normaliens tous les deux, normal suf, vous savez.
Ah, ne sois pas excluant, s'il te plaît.
Et j'avais beaucoup de mal à tutoyer Michel Serres, comme j'avais beaucoup de mal à tutoyer Jean Dormesson, qui me demandait la même chose.
C'était mieux avant. Le tube de Michel Serres.
Quand on dit c'était mieux avant, ça tombe bien, j'y étais. Mmh. Et je peux en parler. Et par exemple, je ne sais pas, prenons un exemple au hasard, on était gouverné par Franco, Mussolini, Hitler, Staline, Mao Tse-tung, etc. Rien que des braves gens. Rien que des braves gens qui ont réussi à faire 45 millions de morts à la Seconde Guerre mondiale, etc. Nous n'avons pas ça. Écoutez, donc, par conséquent, il n'y a vraiment pas photo entre les deux états du monde.
Tu l'avais réclamé dans ce « Salut les copains », ce hit parade de Michel Serres. Maintenant, on va remettre Michel Serres au sujet de la victoire des filles sur les garçons. Ça, c'est pour faire plaisir à Annie, ça.
Avec plaisir.
Elles sont plus professionnelles, elles sont plus motivées. Pourquoi ? Parce qu'elles savent bien que sur le marché de l'emploi, elles ont plus à montrer dans une civilisation qui est encore un peu machiste.
Alors, heureuse ?
Mais évidemment, Michel Serres ne dit que des vérités. Il n'y a même pas besoin d'argumenter. En une seule phrase, il a réussi à dire une évidence.
Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes autrices ? On dit comment ? Auteuses, autrices ?
Auteurs aussi, avec
auteur,
un
R. Auteureux. Auteureux. Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes auteurs dans le théâtre ?
Ah, il y en a. Moins que d'hommes, un peu que comme chez les romanciers et romancières. Mais il y en a, bien sûr.
Donc, il n'y a pas encore de parité.
Oui, alors ça, c'était une autre question. Moi, je suis féministe, mais je ne suis pas un féministe qui veut la parité.
Qui veut du 50-50.
Non, parce que je trouve que c'est humiliant pour les femmes, paradoxalement, de vouloir imposer des quotas comme ça.
Ouais.
Je pense qu'il faut tout faire pour arriver à la parité, mais pas l'imposer. Parce que ce n'est pas respectueux du talent des femmes, parce qu'il y a une femme qu'on va mettre là parce qu'elle est une femme, et puis il y a un homme qui aura toutes les capacités qu'on ne mettra pas là parce qu'on est dans un souci de parité. Donc, je ne suis pas pour cette procédure-là, mais je suis pour la volonté de résultat, et je suis féministe parce qu'être féministe, c'est pas une question de sexe, c'est une volonté d'égalité.
Eh bien écoutez, Karl et Eric-Emmanuel Schmitt, ce que je vous propose cet après-midi pour illustrer le féminisme, c'est d'écouter une chanteuse qui fait partie de la playlist d'Europe 1. Voici Clara Luciani, La Grenade, sur Europe 1.
T'as jamais vu une femme qui se bat? Suis-moi dans la ville blafarde et je te montrerai comme je mords, comme j'aboie. Prends garde sous mon sang là. Regarde
Luciani, La Grenade, sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous écoutez Eric Emmanuel Schmitt et son Culture Culte.
Europe 1.
C'est votre émission de l'été. Pendant 2 heures, une personnalité se dévoile complètement. Alors là, il n'y a aucun filtre, aucun tabou. On vous dit tout. C'est Eric Emmanuel Schmitt aujourd'hui qui a décidé de tout vous dire. Et on va écouter dans un instant, Eric Emmanuel, la chanson culte qui vous relaxe. Et ça tombe bien parce que c'est une chanson qui sent bon l'été. Ça va nous faire penser aux vacances, tiens.
Et voilà,
levez le pied.
C'est l'été sur Europe 1.
Et vous êtes bien sur Europe 1, c'est l'été, on en profite, vous êtes peut-être en vacances, c'est peut-être déjà fini pour vous, en tout cas bon courage. Vous êtes avec Carl Zéro et son invité aujourd'hui, Eric Emmanuel Schmitt, et il est temps de découvrir, Eric Emmanuel, la chanson qui vous fait du bien et qui vous relaxe.
16h, 18h, Culture Culte, sur Europe 1.
Qui êtes-vous ?
Carl Zéro.
Un film magnifique, une jeune actrice sémillante, ton disque culte pour te relaxer, c'est ceci.
The rainbow way up high. There's a land that I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies that you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind.
Alors c'est la chanson qui te relaxe, et c'est vrai qu'à l'écouter c'est très relaxant, mais est-ce que ça n'est pas aussi un choix politique, cette chanson ?
Ah si, en tout cas un choix de morale, de vie, c'est-à-dire quelque part plus loin que l'arc-en-ciel, ce que dit la chanson, et il y a le ciel qui est bleu et on peut faire des rêves qui peuvent se réaliser. Et moi je crois vraiment qu'on doit concevoir sa vie comme la réalisation de ses rêves d'enfant. L'adulte que je suis n'est heureux que parce qu'il a réalisé des rêves d'enfant.
Dans les années 70, cette chanson a participé à la révolution homosexuelle et aux premières gay pride dans les émeutes de Stonewall.
C'est vrai.
Et elle a joué un rôle aussi.
C'est vrai. J'y pensais pas.
J'y pensais pas, mais je suis là pour te le rappeler. C'est une chanson politique en réalité. Je te propose la version de Léo Marjane. Oh. Une belle chanteuse française, mais comme tu les aimes. Comme nous les aimons.
Là-bas, renaît lentement l'arc-en-ciel. Pareil à notre amour ardent et presque irréel. Vers lui, je voudrais partir avec vous.
Grâce à Eric Emmanuel Schmitt, nous sommes vraiment bien sur Europe 1.
Et je découvre Léo Marjane.
Quoi, vous,
comme quoi, on
vous ignoriez l'existence de Léo ?
Absolument, de cette très belle chanteuse qui roule les airs. Non, je ne connaissais pas, écoutez.
Bon, alors moi je vous propose la version que j'ai choisie pour mon nouvel ami Eric Emmanuel.
Ah, celle-ci je la connais.
Vous la connaissez ?
Ah bah absolument, musique hawaïenne.
Musique hawaïenne.
Ukulélé.
Ah ouais, un personnage, alors il s'appelle Israël Iz. J'arrive pas à lire.
Kamakawiwo.
Et alors, ce personnage, il faut que tu ailles le voir sur Internet.
Ouais.
Il est incroyable.
Il est absolument incroyable. C'est un personnage qui pèse 400 kilos.
Ah oui.
Et il chante avec un micro ukulélé. Et cette version de ta chanson qui te relaxe va te toucher droit au cœur. Ah, écoute ouais. Ça.
Ooh.
once in a lullaby. I, oh, somewhere over the rainbow, bluebirds fly.
Sur Europe 1, voilà un titre qui sent bon l'été avec un peu du ukulélé de musique hawaïenne pour cette reprise de votre titre culte.
J'adore.
Qui vous relaxe. Il nous a quittés en 1997 à l'âge de 38 ans. Il est parti très jeune. Mais si je peux conseiller aux auditeurs d'Europe 1, c'est de découvrir aussi sa version de What a Wonderful World,
oh,
qui est absolument magnifique.
Europe 1.
Vous écoutez Culture Culte sur Europe 1 et c'est ça l'émission. Pendant deux heures, on s'échange des bons plans, que ce soit en musique ou en cinéma. C'est l'émission aujourd'hui d'Éric Emmanuel Schmitt. Culture Culte, sa culture, avec aujourd'hui son livre culte. Alors, est-ce que c'est l'un de ses livres, un autre auteur qu'il admire? Vous allez le découvrir dans un instant. Culture Culte avec Carl Zéro, c'est tout l'été, samedi, dimanche, 16h, 18h, avec Éric Emmanuel Schmitt aujourd'hui qui a décidé de tout vous dire. On tourne les pages du livre de sa vie et justement, en parlant de livres, on va dans votre bibliothèque aujourd'hui, Éric Emmanuel.
On raconte toutes sortes d'histoires.
C'est vrai, tout est vrai.
Livre culte.
Dans la bibliothèque d'Éric Emmanuel, il y a tous les SAS, bien sûr. Il y a quelques albums de Bécassine qu'il n'a pas terminé de colorier. Mais il y a surtout Les Liaisons Dangereuses, roman épistolaire de 175 lettres, écrit par Pierre Chauderlot de Laclos et publié en 1782. J'en parle très bien, mais Jean Rochefort nous explique l'intrigue à sa façon.
L'embrouille. Ces deux aristos qui se tâtent l'ombrelle dans des châteaux forts pour faire du clash sexuel à foison. La marquise de Merteuil et le vicomte de Valmont, ils n'ont rien à péter de leur journée. Alors, ils s'envoient des sextos pépères pour dire « J'ai déglingué la Huguette ». À quoi sa comparse répond « Excellent ! Moi, j'ai tripoté la tartiflette de José et celle de Marcel !» C'est trop la débauche paroissiale, mes frères. Ils cultivent l'herpès comme Père Castor son jardin.
C'est effrayant ce qu'on entend sur cette antenne. Non, alors pourquoi ce livre-là?
Ben parce que c'est justement l'histoire de deux personnages blasés qui pensent avoir tout dépassé, qui manipulent les autres pour avoir des aventures amoureuses, Madame de Merteuil et Valmont. Ouais. Et puis tout d'un coup, lui, il va rencontrer l'amour alors, ouais, qu'il ne s'y attendait pas. C'est la surprise de l'amour. C'est comme si la vengeance du ciel, c'était de lui faire rencontrer l'amour. Et moi, un personnage cynique qui découvre du haut de son cynisme l'émerveillement, l'attachement à l'autre, ça me bouleverse. Parce que je crois qu'en fait, moi j'ai d'abord été cynique,
oui,
avant d'être amoureux. Je me retrouve énormément en Valmont. Pour moi, l'amour a été un éblouissement. Je pensais pas que je pouvais tenir à quelqu'un plus qu'à moi. Je pensais pas que le bonheur de l'autre pouvait compter plus que le mien. Je l'ai découvert parce que la vie m'a offert ce cadeau d'aimer. Et donc, c'est pour ça que je me sens si proche de ce Valmont. J'ai vécu longtemps avec l'illusion que j'allais tout contrôler, mes sentiments, mes émotions. Or, qu'est-ce que c'est être amoureux? C'est tout d'un coup être envahi par un sentiment plus grand que soi.
Et lâcher prise totale.
Et lâcher prise devant ça. Et accepter d'être tout petit devant ce grand sentiment. Mais un grand sentiment qui nous a grandi, en fait. Alors voilà, il y a tout ça dans les liaisons dangereuses.
C'est magnifique, tu en parles beaucoup mieux que les inconnus.
S'il est vrai que j'ai pu croire un instant que vous fussiez un gentilhomme, et si votre orgueil autant que votre audace n'avait d'égal que votre galanterie...
Je t'emmerde, Merteuil, et tu vas me le payer.
Pauvre sot, vous n'êtes digne que de mon indifférence.
Méfie-toi de la ruse de la femelle en route. Va droit au but, sans tomber dans les fils de la toile qu'elle aura tissée pour te piéger.
Dans le même genre, j'ai celle des nuls.
Vous êtes diabolique, maîtresse. Mais y a-t-il plus de ces mécréants qui vous haïssent? Pourtant, ils ont été vos amis.
Ils ont été? Ils le sont encore. Ils le seront à jamais. Et si ma haine ira à eux, leurs amours ira à moi.
Dieu vous entende, maîtresse.
Les liaisons dangereuses. Un film époustouflant avec que des fautes d'accord.
Si vous voulez, vous viendrez avec moi.
Je mourrai si je viendrais avec toi.
Ou à l'autre.
Les liaisons dangereuses. Allez-y avec vos amis. Ou même ta famille.
Décidément, ça a inspiré beaucoup de monde, les liaisons dangereuses, c'est hyper culte.
Ben oui, bien sûr, on s'y retrouve. Il y a toutes les façons d'aimer dans ce livre.
Il y a une autre façon, c'est celle de Mylène Farmer. Sais-tu que Mylène Farmer a fait... Ben, tu me regardes en clignant des yeux effaré. Mylène Farmer a fait une chanson qui sample la célèbre réplique de John Malkovich, Valmont, dans le film de Stephen Frears, quand il quitte Madame de Tourvel. Beyond my control.
It's beyond my control.
Je ne comprends plus pour moi quoi
Control, Mylène Farmer sur Europe 1. Alors, si vous vous demandez pourquoi on écoute ce titre de Mylène Farmer, bah, tout simplement parce que la phrase est extraite du film Les Liaisons Dangereuses avec John Malkovich, un film de Stephen Frears.
Oui, et puis on a dansé dessus jeune avec Eric Emmanuel.
C'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, on va diffuser les images sur Europe1.fr très prochainement.
Europe 1.
Alors, après avoir découvert votre livre culte, Eric Emmanuel Schmitt, nous avons envie de savoir quel est le dessin animé culte d'Eric Emmanuel Schmitt. Parce que vous aimez les dessins animés et vous aimez les chansons de dessins animés aussi.
Oui, oui.
Vous allez tout nous dire
ça,
dans un instant.
C'est un moment qu'on aurait préféré ne pas passer, mais bon, on va le faire quand même.
Vous écoutez Culture Culte jusqu'à 18. Vous écoutez Carl Zéro sur Europe 1, Culture Culte, une émission de deux heures où on partage souvenirs, Madeleine de Proust et certainement beaucoup de choses qui vous rappellent à vous aussi de l'autre côté de la radio des souvenirs. Aujourd'hui, c'est Eric Emmanuel Schmitt qui se livre et il est temps de parler dessin animé. On retombe tous en enfance.
La force, elle t'appelle.
16h, 18h, Culture Culte.
Rien ne nous arrêtera.
Carl Zéro sur Europe 1.
Jusqu'à présent, Eric Emmanuel Schmitt a été brillant dans cette émission. Il nous a touchés au cœur.
C'est vrai.
Il a très bien parlé d'amour il y a un instant.
C'est vrai.
Et patatras. Patatras la honte. On lui dit, quelle est la chanson que tu as honte d'aimer, mais que tu aimes quand même, que tu écoutes en secret au fond de ta grotte, qui n'est culte que pour toi, dont tu n'as pas envie de parler. Il nous sort Balou dans le livre de la
mais
jungle.
Mais oui, bien sûr.
Il en faut peu pour être heureux. Un court extrait.
Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature. Quelques rayons de miel et de soleil.
Voilà, nous ne sommes plus que trois sur Europe 1. Eric Emmanuel, Anissa et moi, plus aucun auditeur. Ils sont tous barrés. Je ne sais que faire, mais heureusement, Louis Armstrong a repris la chanson.
Look for the bare necessities, simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean the bare necessities, Mother Nature's recipe. Bring the bare necessities of life.
Déjà, ça passe mieux.
Ah ouais.
Hein ? Mais ça vient d'où d'ailleurs ce goût pour Balou ?
Bah, de souvenirs d'enfance, le livre de la jungle, j'avais 11 ans.
Ouais.
Voilà, j'avais le disque, je savais toutes les chansons par cœur.
Tu avais le disque ?
J'avais le disque.
Est-ce que tu avais un petit manche-disque orange ?
Oui, un Tépaz.
Un Tépaz. Ah, c'est pas le manche-disque, monsieur.
Non.
Le Tépaz s'ouvrait.
Le Tépaz s'ouvrait. J'avais un Tépaz rouge qui s'ouvrait. Oui, qui marchait sur pile.
Tu l'as conservé ?
Malheureusement, non.
Il vaut une fortune aujourd'hui, ah, tu le sais. La chanson que tu as entendue la toute première fois dans ton enfance, et qui n'est pas une musique de dessin animé,
oui,
c'est celle-ci.
Il y a un arbre, je m'y colle dans le petit bois de Saint-Amand. Je t'attrape et tu t'y colles, je me cache à toi maintenant. Il y a un arbre, puis j'envole dans le petit bois de Saint-Amand. Où tournaient nos rondes folles, puis j'envole, vole, vole, vole. Dessus l'arbre, l'oiseau vole et s'envole. Tiens, voilà le printemps. Il y a nos 15 ans qui s'affolent dans.
Fallait la sensibilité de Gérard Depardieu pour oser s'affronter à ce monument qui est le petit bois de Saint-Amand de Barbara.
Mais il peut parce qu'il a l'extrême sensibilité, l'extrême vulnérabilité. À moi, c'est une chanson qui me rappelle les voyages en 4L, les voyages pour aller en vacances dans la Méditerranée. C'est voilà, une enfance des années 60.
Ça passait à la radio.
Ah oui.
Dans les embouteillages, par exemple, tu avais des frères et sœurs ?
Une grande sœur, oui.
Alors vous étiez tous les quatre avec tes parents ?
Oui, et on chantait ça à tue-tête, ça devait être insupportable, je pense, pour... remarquez, on chantait avec les fenêtres fermées en même temps.
L'immense Barbara, le petit bois de Saint-Amand.
Il y a un arbre, je m'y colle dans le petit bois de Saint-Amand. Je t'attrape, tu t'y colles, je me cache à toi maintenant. Il y a un arbre, pigeon vole dans le petit bois de Saint-Amand. Où tournent nos rondes folles, pigeon vole, vole, vole. Dessus l'arbre, oiseau vole et s'envole, voilà le printemps. Il y a nos 15 ans qui s'affolent dans le petit bois de Saint-Amand. Et sous l'arbre, sans parole, tu me berces amoureusement. Et dans l'herbe, jupon vole et s'envole nos rêves d'enfant. Mais un beau jour, tête folle, loin du petit bois de Saint-Amand. Et loin du temps de l'école, je suis partie, vole, vole. Bonjour l'arbre, mon bel arbre, je reviens, j'ai le cœur content. Sous tes branches qui se penchent, je retrouve mes rêves d'enfant. Y a un arbre, si je meurs, je veux qu'on m'y couche doucement. Qu'il soit ma dernière demeure dans le petit bois de Saint-Amand. Qu'il soit ma dernière demeure dans le petit bois de Saint-Amand. Il y a un arbre, pigeon vole, mon cœur vole, pigeon vole et s'envole. Il y a un arbre, pigeon vole.
Au bois de Saint-Amand, Barbara sur Europe 1, c'est le premier titre qu'a entendu Eric Emmanuel Schmitt et on le réécoute.
Dans la 4L.
Dans la 4L
et
en
famille.
Et on
va parler de la 4L là.
Oui, on va en reparler puisqu'on continue de découvrir votre enfance dans un instant sur Europe 1.
Europe 1.
Vous écoutez Culture Culte avec Carl Zéro et son invité aujourd'hui, Eric Emmanuel Schmitt. Il nous reste encore quelques minutes à passer ensemble. Alors Eric Emmanuel, on a parlé de votre toute petite enfance avec le premier titre que vous avez entendu, avec le livre de la jungle. On va parler de vos 18 ans et de votre amoureuse dans un instant. Vous êtes bien sur Europe 1, Carl Zéro vous accompagne jusqu'à 18h. C'est Culture Culte, pour le moment, musique. Avec The Rolling Stones, nous sommes en 1965 sur l'album Out of Our Heads, version américaine. Voilà I Can't Get No sur Europe 1.
We'll be right back.
Williams pour vous sur Europe 1, I Can Get No. Belle fin d'après-midi, toujours en compagnie de Carl Zéro et son invité Éric-Emmanuel Schmitt. Vous écoutez Culture Culte sur Europe 1. Culture Culte, votre émission de l'été avec Carl Zéro et son invité. C'est tous les samedis, tous les dimanches, de 16h à 18h sur Europe 1. Aujourd'hui, Carl, vous recevez Éric-Emmanuel Schmitt et on va parler enfance, adolescence et premières amours.
Asseyez-vous tranquillement, nous avons le contrôle total de l'émission.
Carl Zéro.
Et nous avons tellement, cher Éric-Emmanuel, le contrôle de l'émission, que je vais te parler de la chanson qu'aimaient tes parents.
Oui.
Est-ce que tu te souviens de laquelle c'est ?
Oui.
C'est quoi ?
Varum.
Varum, interprété par Camille Felgen, dit Camillo, un chanteur et acteur luxembourgeois.
Ouais.
Né en 1920 à Tétanges et qui s'est éteint en 2005 à Esch sur Alzette, tout ça au Luxembourg. Il n'est resté qu'au Luxembourg et il a fait un tube qui s'appelait donc Zach Varum en 59. C'était une mélodie de Phil Spector que nous saluons. Il nous écoute depuis sa geôle aux États-Unis.
C'était un triomphe cette chanson à l'époque.
Oh, c'est le tube de la fin des années 50. Quoi. Ouais. C'est le slow qui tue. On écoute un extrait.
Doch du liest mich allein. Wann kommst du zurück? Sag wann.
Alors pour ceux qui ne connaissent pas, évidemment, ça peut paraître un peu troublant, Éric Emmanuel. On se dit, merde, ses parents étaient dans la Wehrmacht, il y a un problème. Bah écoute, il chante en allemand, le mec, ça fait froid dans le dos. C'est quoi cette histoire ?
Mais non, mais moi j'ai un nom allemand, Schmitt, qui est en fait un nom alsacien.
Ouais.
Ouais.
Et bien, quand j'étais petit, je subissais quand même une espèce de méfiance systématique, voire de haine, parce que j'avais un nom allemand. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la réconciliation entre la France et l'Allemagne. Et c'était tout à fait logique, je le comprenais très bien. Alors à chaque fois, j'expliquais, non, c'est pas allemand, c'est alsacien. Alors les gens se calmaient. Mais j'ai vu, à travers les réactions à mon nom, l'histoire de l'Europe changer. C'est-à-dire que dans mon enfance, ça déclenchait de l'agressivité,
ouais.
Des quolibets. Et puis à partir du moment où il y a eu Kohl
Mitterrand.
Et Mitterrand qui ont fait cette fameuse photographie en se tenant la main, tout d'un coup, ça s'est calmé après. Et puis maintenant, il n'y a plus aucun souci d'avoir un nom allemand. Et même d'être un auteur français, traduit dans le monde entier, avec un nom allemand.
Mais votre patronyme, vous, ça a été source d'ennui quand même. Parce que vous nous disiez que le double prénom, ça a été compliqué à gérer.
Oui,
le nom de famille, compliqué à gérer.
Exactement.
Il a d'ailleurs envisagé de s'appeler Alain Delon pendant un moment.
Mais c'était déjà pris.
Mais j'avais pas le physique.
Mais si à l'époque tu l'avais. Arrête un petit peu quand
jamais,
même.
Jamais.
Alors, puisqu'on parle de ton enfance, de tes parents, de la 4L, quelle est la chanson qui a commencé par te faire rire au deuxième degré pour finir, comme bien souvent d'ailleurs dans le domaine du culte, sans jeu de mots, par l'aimer au premier ? Eh bien, c'est cette chanson, écrite par Pascal Sevran. Il venait d'avoir 18 ans.
Il venait d'avoir 18 ans. Il était beau comme un enfant, fort comme un homme. C'était l'été, évidemment, et j'ai compté en le voyant mes nuits d'automne. J'ai mis de l'ordre à mes cheveux, un peu plus de noir sur mes yeux, ça l'a fait rire. Quand il s'est approché de moi, j'aurais donné n'importe quoi pour le séduire. Il venait d'avoir 18 ans, c'était le plus bel argument sa victoire. Il ne m'a pas parlé d'amour, il pensait que les mots d'amour sont dérisoires. Il m'a dit, j'ai envie de toi, il avait vu au cinéma le blé au nerf, au creux d'un lit improvisé, j'ai découvert. Il venait d'avoir 18 ans. presque insolent de certitude. Et pendant qu'il se raviait, déjà vaincu, je retrouvais ma solitude. J'aurais voulu le retenir, pourtant je l'ai laissé partir sans faire un geste. Il m'a dit, c'était pas si mal, avec la candeur infernale de sa jeunesse. J'ai mis de l'ordre à mes cheveux, un peu plus de noir sur mes yeux. Par habitude, j'avais oublié simplement que j'avais deux fois 18 ans.
Il venait d'avoir 18 ans, Dalida sur Europe 1. Voilà, en plein été, ça fait du bien hein, d'écouter ça sur Europe 1. Et c'est un nouveau choix musical d'Éric Emmanuel Schmitt.
Europe 1.
C'est déjà presque la fin du Culture Culte d'Éric Emmanuel Schmitt aujourd'hui. Ça passe très très vite ces deux heures de confidence, mais on va pas vous lâcher comme ça, Éric Emmanuel. Parce que vous savez qu'on a une tradition dans cette émission depuis le début de l'été, depuis le
très
début
importante.
Du mois de juillet. Chaque invité termine cette émission en chanson.
C'est buzz garanti.
C'est vous qui allez.
Réseaux sociaux, milliards de vues après.
Vous allez interpréter Éric Emmanuel Schmitt dans un instant la chanson que vous auriez rêvé écrire ou chanter. Suspense, à tout de suite. Vous écoutez Culture Culte sur Europe 1, ça passe trop vite. Deux heures avec Éric Emmanuel Schmitt, c'est déjà presque la fin. Et pour cette dernière partie, Éric Emmanuel, on va découvrir quelle est la chanson culte que vous auriez rêvé écrire ou interpréter.
Lance-toi, tu bues et marche à l'ombre.
Chanson culte.
Oh, on est très très loin de cette chanson-là, de Renaud. On est dans une très belle chanson de Jacques Brel, la chanson des vieux amants. Pourquoi tu rêvais de l'écrire ?
Bon, parce que c'est tout simplement un poème sublime,
sublime.
Génial, et puis qui ose dire la vérité sur l'amour.
Alors à défaut de l'écrire, tu vas nous l'interpréter. Maintenant, c'est parti.
Bien sûr, nous eûmes des orages. 20 ans d'amour, c'est l'amour folle. 1000 fois tu pris ton bagage. 1000 fois je pris mon envol. Et chaque meuble se souvient, dans cette chambre sans berceau, des éclats des vieilles tempêtes. Plus rien ne ressemblait à rien. Tu avais perdu le goût de l'eau et moi celui de la conquête. Mais mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore. Tu sais, je t'aime. Moi, je sais tous les sortilèges. Tu sais tous mes envoûtements. Tu m'as gardé de piège en piège. Je t'ai perdu de temps en temps. Bien sûr, tu as pris quelques amants. Il fallait bien passer le temps. Il faut bien que le corps exulte. Mais finalement, il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adulte. Mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore. Tu sais, je t'aime. Et plus le temps nous fait cortège, et plus le temps nous fait tourment. Mais n'est-ce pas le pire des pièges que vivre en paix pour des amants? Bien sûr, tu pleures un peu moins tôt, je me déchire un peu plus tard, nous protégeons moins nos mystères. On laisse moins faire le hasard. On se méfie du fil de l'eau. Mais c'est toujours la tendre guerre. Oh mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour. De l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore. Tu sais, je t'aime.
Bravo, Eric Emmanuel.
Nous sommes
Schmitt.
Que deux à applaudir, mais je sais que dans leur voiture, chez eux, les gens applaudissent. Tu es fait pour ça, en réalité. Tu nous avais caché ce talent-là.
C'est-à-dire que cette chanson dit tellement la lucidité de l'amour. On n'aime vraiment que si on veut aimer, et si on veut aimer longtemps. Autrement, il y a toutes les raisons que ça s'arrête. Donc il faut traverser les guerres, les orages, les tempêtes, et puis peut-être même aimer les guerres, les orages et les tempêtes.
Tu te rends compte que finalement, tu n'as parlé que d'amour au cours de ces deux heures?
Non, je ne m'en rends pas compte, mais je suis heureux de l'apprendre.
Bien, je te le dis.
D'accord.
À chaque fois, on a parlé d'amour. Merci d'avoir passé ces deux heures avec nous sur Europe 1 dans Culture Culte, Eric Emmanuel Schmitt.
Avant de se quitter, Eric Emmanuel Schmitt, je rappelle qu'il y a deux grands rendez-vous que vous donnez au public français. Au théâtre Rive Gauche, 30 représentations exceptionnelles. C'est à partir du 29 août, hein, donc c'est très bientôt, c'est dans un peu plus de 10 jours maintenant, du mardi au samedi à 20h30 et en matinée, hein, le dimanche à 15h. Madame Pilinska et le secret de Chopin, ça parle de quoi?
Ce sont la rencontre que j'ai fait à 20 ans avec une professeure de piano totalement excentrique et totalement folle, qui était censée m'apprendre à jouer Chopin, mais en fait qui m'a appris à vivre. Grâce à elle, j'ai pu apprendre à regarder le monde, à toucher, à aimer, à regarder au fond des yeux. Bref, c'est un cours de musique qui se transforme en cours de vie.
Très bien. Madame Pilinska et le secret de Chopin. Une pièce à aller voir au théâtre Rive Gauche avec Eric Emmanuel Schmitt, bien sûr. Et c'est mis en scène par Pascal Faber. Et puis votre livre qu'on attend, le nouveau. C'est pour le 4 septembre, Journal d'un amour perdu chez Albin Michel. Vous pouvez nous le résumer, ce nouveau livre?
Je vous dirai la première phrase.
Allez-y, on vous écoute.
Maman est morte ce matin et c'est la première fois qu'elle me fait de la peine.
Ça ressemble au début de L'étranger.
Oui, mais avec de l'amour.
L'amour, à chaque fois l'amour.
Journal d'un amour perdu, le nouveau livre d'Eric Emmanuel Schmitt, en librairie le 4 septembre. Merci d'avoir été avec nous.
Et alors demain dimanche, Anissa, dans Culture Culte, qui est-ce qu'on aura?
Demain, 16h, une nouvelle émission Culture Culte avec le rappeur Joey Star, Karl. À demain.